Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Aujourd'hui, nous allons évoquer le grand poète allemand Novalis. Frédéric Brun vient de publier un livre sur lui, Novalis et l'âme poétique du monde. Et dans ce livre, il entremêle ses réflexions personnelles, le récit de la vie de Novalis et les raisons de son attirance pour celui qui demeure 200 ans plus tard d'une grande modernité.
Frédéric Brun, merci d'avoir accepté cet entretien pour la Cave littéraire et le magazine Au fil des arts. Couleur FM, on pourrait peut-être commencer quand même par dire quelques mots de Novalis. Tout le monde peut-être ne connaît pas Novalis, même s'il a une vie très courte, il y a un certain nombre de faits marquants qu'il est important de souligner, je pense.
Alors, Novalis, en fait, est un poète de la fin du XVIIIe siècle. Il est né en 1772 et il est mort très jeune, à 29 ans, en 1801. C'est un jeune homme qui a fait des études assez poussées dans différentes disciplines, à savoir des études au départ de droit, juridique pour sa profession, ensuite scientifique. Il a beaucoup étudié aussi les philosophes de son époque. Et il a terminé même dans la plus grande école scientifique de sa région et de même du pays, qui était l'Académie des sciences de Freiberg, qu'on peut considérer comme une espèce d'école polytechnique ou des mines actuelles. Donc il a, en même temps que ses études, il a écrit énormément de choses, aussi bien des fragments qu'un roman qu'il a laissé inachevé, qui s'appelle Henri d'Ofterdingen, un poème en prose et en vers qui s'appelle Des hymnes à la nuit, un conte initiatique qui s'appelle Les disciples à Saïs. Il faut savoir que son œuvre était pratiquement dans sa totalité publiée qu'après sa mort, à part quelques fragments comme Les grains de pollen qui sont parus dans la revue Athénaeum, dont je parlerai certainement tout à l'heure, et à part quelques passages des hymnes à la nuit aussi publiés dans la revue Athénaeum. Mais c'est un poète qui a été pratiquement pas publié de son vivant et dont la renommée mondiale n'a fait qu'augmenter depuis 200 ans, une renommée qui a été grandissante, puisque 50 ans après sa mort, il n'y avait toujours pas 500 exemplaires de ses ouvrages vendus. Et il a fallu attendre plusieurs des grandes personnalités qui ont permis d'éclairer son œuvre. Voilà, c'est un être qui a été marqué par la mort de façon répétitive, aussi bien par la mort de sa jeune fiancée et de son frère, son frère cadet, et c'est pour ça qu'il a écrit des hymnes à la nuit consacrés à la mort, et que la mort est au centre de son œuvre. Il n'y a pas que la mort qui est au centre de son œuvre, c'est bien sûr la poésie, non pas la poésie du verbe, mais la poésie du monde, qu'il place au milieu de toutes les disciplines qu'il a étudiées, qui est une poésie qui place au-dessus de toutes les disciplines, et c'est en ce point qu'il a écrit des textes fondateurs.
De Novalis, nous n'avons qu'un seul portrait, me semble-t-il.
Oui.
Vous pouvez évoquer ce portrait, il est intéressant.
Écoutez, c'est un portrait que moi, justement, j'ai découvert au moment où je ne connaissais pas encore bien Novalis. J'avais à peine lu quelques-uns de ses écrits. Et j'ai été tout à fait marqué par la grâce qui était dans ce portrait, avec le visage d'un être qui était assez... Il y avait une part féminine qui se dégageait de cet être, mais surtout une part d'éternité. On a l'impression que c'est un, C'est un personnage qui est hors du temps et je trouve que ce portrait correspond tout à fait à ses œuvres. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que les chercheurs qui travaillent sur Novalis actuellement ne savent pas l'âge exact qu'il a sur ce portrait et ne savent pas qui exactement l'a peint, alors que c'est un portrait qui maintenant est assez connu et a participé, entre guillemets, au mythe Novalis, c'est-à-dire qu'il a... Il a permis aussi d'embellir notre imaginaire autour de son œuvre, alors qu'on ne sait pas effectivement qui l'a peint et qui et quel âge il avait exactement sur ce tableau. Et c'est pour ça aussi que peut-être il semble un petit peu hors du temps. Ça ajoute un peu du mystère à la perception qu'on peut avoir de lui.
Votre livre, c'est pas une biographie au sens linéaire du terme. C'est pas un essai universitaire au sens où vous auriez approfondi un certain nombre de thématiques pour aboutir à un portrait intellectuel ou poétique. Je l'apparenterais plus volontiers à un parcours. Un parcours d'ailleurs très riche, enrichi par un nombre impressionnant de lectures. Là, moi, j'étais stupéfait en vous lisant. Dans l'univers d'un poète qui est mort très jeune, de tuberculose, vous nous faites découvrir sa famille, ses deux amours, les lieux qui lui étaient familiers, les artistes qu'il a côtoyés, nombreux, tout en multipliant les regards sur sa quête d'une poésie qui serait la clé de tout. Et vous dressez un superbe portrait du bouillonnement intellectuel de l'époque, le premier romantisme allemand. Est-ce que je vous ai pas trahi ?
Non, merci pour ces propos. C'est vrai que j'ai fait pour essayer de décrire cette époque, j'ai fait un voyage. Vous allez peut-être me poser la question à propos de ce voyage. J'ai voulu plonger dans l'époque de Novalis, un petit peu de manière innocente et vraiment comme un autodidacte, parce que Novalis a été, depuis une cinquantaine d'années, largement étudié par de nombreux universitaires, de nombreux philosophes. Il faut savoir que la réception de Novalis a été presque plus importante dans les milieux philosophiques et universitaires que dans les milieux poétiques, finalement. Et donc, il a souvent été étudié de façon assez passionnante, mais aussi de façon un peu complexe par des chercheurs, par des universitaires. Et moi, j'ai voulu essayer de remonter un petit peu aux sources et d'aller vraiment toucher de près les ambiances, avoir des références biographiques assez précises pour mieux comprendre son existence. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse qui s'appelle une mission Stendhal en France, qui est décernée par l'Institut français, et une bourse qui m'a permis d'aller faire un voyage pendant un mois sur les lieux où a vécu Novalis, en fait dans un périmètre assez restreint, puisqu'il n'a jamais quitté sa région natale, qui est autour de Leipzig et de Jena, dans l'ex, un petit peu situé dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et il y a différents sites à 50 km les uns des autres qui permettent d'avoir un aperçu assez complet de l'existence de Novalis. J'ai commencé par sa maison natale, qui est devenue un centre de recherche. Alors, cette maison natale m'a intéressé pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il y a sur place une grande bibliothèque consacrée à toutes les œuvres de Novalis publiées dans le monde entier. Il doit y avoir peut-être entre 5 000 et 10 000 ouvrages sur Novalis. Et déjà, ça, c'est assez important de voir cette bibliothèque parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, 50 ans après sa mort, il n'y avait toujours pas 500 exemplaires de ses œuvres de vendus. Et c'est assez réconfortant de voir que 200 ans après, il s'est devenu un poète, non pas de notoriété évidente, hein, parce que si vous allez si vous interrogez les gens dans notre pays, ou même parfois en Allemagne, sur « est-ce que vous connaissez Novalis ?», on va souvent répondre « non ». Mais malgré cette notoriété qui n'est pas de première, aussi évidente que ça, il est mondialement connu, mondialement étudié dans toutes les universités du monde. Il a été traduit, il y a eu des biographies sur lui dans le monde entier. Et son œuvre est maintenant à peu près complètement traduite. Donc de voir ces ouvrages réunis dans une même pièce, c'est assez émouvant. Et j'ai pu moi-même me servir de ces livres et me faire traduire de nombreuses références, de nombreux ouvrages. Cette maison natale est aussi importante parce que tous les ans, il y a un anniversaire de Novalis qui est fêté avec certains chercheurs qui viennent du monde entier, notamment un président de l'association qui est un professeur d'université américaine. Et donc, c'est un centre assez vivant. C'est assez touchant aussi qu'il soit vivant parce que c'est un centre qui a failli disparaître. En fait, cette maison natale a failli être détruite, en fait. Parce que pendant l'époque de l'Allemagne de l'Est, la Stasi a voulu récupérer c'était un château qui représentait un petit peu le monde de la noblesse de l'époque. En plus, Novalis ne correspondait pas du tout aux idéaux de l'Allemagne de l'Est par son côté un petit peu rêveur, venant d'une famille noble. Tout ça, ça plaisait pas beaucoup dans ce contexte-là, et on a failli détruire, cette maison natale. Et j'ai même d'ailleurs découvert dans mes recherches des choses assez étonnantes, comme il y a eu un document officiel de la Stasi, et ils prenaient même pas le soin de maquiller les titres sur les dossiers. Il y avait marqué OPK Novalis sur un dossier, Opération de contrôle Novalis, qui était toute l'opération d'espionnage qui était faite pour voir s'il ne se passait pas des choses louches un petit peu dans cette maison. Et c'est grâce à quelques bénévoles de ce petit village qui est Oberwiederstedt que cette maison a pu être sauvée et puis maintenant est devenue un foyer culturel tout à fait vivant. Alors j'ai eu l'occasion après d'aller dans une autre maison qui est aussi un musée Novalis, mais là cette maison c'est plus la maison où il a vécu son adolescence. Et donc là, ça aussi, c'est un autre musée Novalis. Et toujours dans le même périmètre, j'ai pu aller dans deux lieux très symboliques. Un qui est le château de Grüningen, où il a rencontré sa fiancée à l'âge de 15 ans, qui était un très beau château jaune dont il parle dans son œuvre, qui est maintenant devenu, que j'ai visité dans un autre contexte, puisqu'elle est devenue une maison de retraite. Et un cimetière qui, lui, semblait ne pas avoir changé depuis 200 ans et où Novalis a été inspiré pour ses fameux hymnes à la nuit quand il est venu se recueillir pendant une semaine sur la tombe de cette petite amie. Donc j'ai essayé de plonger dans l'ambiance. Je l'ai fait aussi dans les villes de Leipzig et d'Iéna où je suis allé voir les universités. Et ça a été un voyage important. Et puis souvent en marche parce qu'il y a des lieux qui semblaient mythiques dans les livres que j'avais lus et puis qui étaient finalement maintenant des lieux parfois tagués. Il y a une maison, la maison où vivait Novalis à Iéna pendant ses études. J'allais la voir pour voir la plaque Novalis parce que je m'apercevais qu'il y avait des tags juste en dessous. Voilà, c'était un peu aussi un voyage qui allait vers le romantisme. Et puis vers ce qui reste de ce romantisme dans l'Allemagne contemporaine. Et ça, j'ai voulu aussi. Alors, mon livre, il est construit. Il alterne des chapitres. Il y a une partie biographique. Il y a toujours un chapitre qui annonce un certain passage de la vie de Novalis. Et j'alterne à chaque fois une réflexion personnelle sur ma vision de Novalis ou qu'est-ce qui se passe dans le monde contemporain actuellement par rapport au chapitre que je viens d'aborder de manière biographique.
J'ai eu l'impression, non pas en lisant votre livre, mais en parcourant un certain nombre de sites web, qu'il y a énormément de commentateurs du poète qui donnent plus dans la géographie que dans l'étude, non pas systématique, mais enfin dans l'étude sérieuse. On a l'impression que Novalis est quelqu'un qui suscite de l'adulation et pas forcément une connaissance très, très approfondie de son œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a eu différentes étapes dans la réception de Novalis, mais la réception actuelle a été depuis 15-20 ans assez axé sur ces fragments, sur l'étude de ces fragments, on en a lu des extraits, des fragments d'ailleurs qui sont parfois pas toujours faciles d'accès, qui ont des multiples entrées philosophiques, scientifiques. Et voilà, c'est cette complexité, la richesse de ce fragment qui a été étudiée par les universitaires. Moi, personnellement, j'étais intéressé, bon, bien sûr, je suis intéressé par ces fragments, mais je suis encore plus attiré par la simplicité du message de Novalis, qui d'après moi, à un moment donné, par les universitaires, a été peut-être un peu, peut-être pas oublié, mais légèrement mis de côté pour cette étude scientifique de ces fragments philosophiques. Et moi, j'ai essayé de m'approcher peut-être plus de la simplicité de son message, parce que finalement, Novalis a un message très simple, un message d'amour, de poésie, de regard sur le monde assez simple, avec une vie qui est en parfaite adéquation avec ce message, parce qu'il a vécu comme il a écrit. Donc... oui, parfois peut-être, il y a certains médias qui ont eu la gentillesse de dire par à propos de mon livre que j'avais essayé de rendre accessible Novalis. J'espère que j'ai un petit peu réussi ce pari, parce que je trouve que Novalis mérite d'être connu par le nombre plus important de personnes qu'un cercle restreint de chercheurs ou d'intellectuels.
Carl Stamitz, 1741-1801, a composé ce troisième concerto pour clarinette dont nous écoutions le troisième mouvement. Il est interprété par Sabine Meyer à la clarinette et l'Academy of St. Martin in the Fields.
Ce qui m'a fasciné en lisant votre livre, c'est de voir à quel point cet homme est multiple et mobile. Vous parliez de... Il n'a pas fait de grand voyage, mais il n'arrête pas de se déplacer. Et puis, il est passé d'une étude à l'autre, et chacune venant enrichir un petit peu l'ensemble. Il a passé son temps à poésie, à penser poésie, mais en même temps, il avait bien compris qu'il fallait qu'il subvienne à ses besoins. Il obéissait sans trop de difficultés aux injonctions d'un père plutôt autoritaire. Il a voulu fonder une famille. Il a eu une activité professionnelle. Il a dirigé les salines du royaume de Saxe. C'est un homme qui surprend, qui fait de la poésie le summum de son art et qui, en même temps, reste très préoccupé des choses matérielles.
En fait, il n'est pas si surprenant que ça. Moi, je trouve ça complètement logique, sa démarche. La première, bon, bien sûr, c'est que s'il a étudié et puis voulu exercer la profession, prendre la succession de son père à la direction des salines, parce qu'il faut savoir que à l'époque, son père avait un poste important puisque les salines étaient la principale source d'activité de cette région. Donc c'était un petit peu l'exploitation de la richesse de la région. Et Novalis a voulu reprendre la direction des salines. Et il a voulu, pour prendre cette direction, non seulement avoir des compétences juridiques, commerciales, mais en plus scientifiques pour l'exploitation des mines. Donc il a exercé ses études à fond pour faire ce métier, mais il a plein de raisons pour lesquelles il s'est fixé ses objectifs. Alors la première, bien sûr, c'est que pour gagner sa vie, il n'était pas question de gagner sa vie de la littérature et avec la poésie à cette époque. La deuxième chose, c'est que mais c'est lié avec son travail d'écriture parce que Novalis estimait que comme il plaçait l'amour aussi haut que la poésie, il pensait qu'il devait à tout prix fonder un foyer, avoir des enfants. Donc il voulait assurer bien sûr la vie matérielle de cette famille, mais il voulait en plus être dans une famille harmonieuse, et il pensait que l'harmonie de cette famille allait lui permettre aussi d'écrire en cohérence avec le message d'amour qu'il avait envie de transmettre. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir aussi qu'il a vécu que 29 ans et il a vécu très très vite, de manière très très intense. Là où ses études sont aussi importantes et ce n'est pas surprenant, c'est que comme il voulait mélanger l'influence de toutes les disciplines, toutes ces études, finalement, lui ont permis aussi d'arriver au message de synthèse qu'il voulait transmettre. Donc, tout était très cohérent. Il n'a pas fait ce chemin uniquement en se disant « c'est matériel ». C'est un tout qui est cohérent.
Il n'empêche, c'est très impressionnant. Il connaît l'œuvre de Kant. Il a fréquenté les philosophes de son temps, Schelling et Fichte. Il a assisté au cours d'histoire de Schiller. Il lit, il commente le roman d'apprentissage de Goethe, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Il étudie la chimie, la minéralogie, les mathématiques, la physique. Il a même participé à la réalisation d'une des premières cartes géologiques allemandes. Il y a quand même une volonté chez lui, au départ, de comprendre le monde dans lequel il vit. Mais on a l'impression, donc, c'est ce que vous avez commencé à nous dire, qu'il ne s'en satisfait pas. Il se sert de ça pour aller vers une compréhension globale que lui donne la poésie. C'est un peu ça, Novalis.
Oui, en fait, donc Novalis a vécu déjà dans un âge d'or. C'est un âge d'or parce qu'il y a eu une effervescence intellectuelle extraordinaire à cette époque entre Leipzig et Iéna, où des scientifiques, des philosophes, des écrivains... pouvaient dialoguer entre eux et de manière totalement nouvelle et totalement originale. Il y a quelque chose de très important à cette époque, c'est qu'il y a eu la fondation de la revue Athénaeum en 1798 à Iéna, une revue qui a été initiée par les deux frères Schlegel, Friedrich Schlegel et August Wilhelm Schlegel, qui ont imaginé cette revue, C'est dommage. J'aurais aimé que elle est trop ancienne pour être à la Poétèque, mais ce sera peut-être un objectif. Elle est en allemand. Donc cette revue devait faire intervenir les esprits les plus brillants de cette époque. Donc les philosophes dont on vient de parler, Schelling, un théologien majeur de l'époque, Schleiermacher, donc les frères Schlegel, Novalis, un conteur qui était célèbre, Tieck. Donc tous ces esprits devaient collaborer à cette revue pour participer au débat et expliquer pourquoi la poésie était en fait au-dessus de toutes les disciplines. En fait, je ne parle pas uniquement... Donc Schlegel a écrit des textes, des fragments très importants pour expliquer ce que signifie exactement cette poésie pour lui. Ce n'est pas une poésie uniquement du verbe, parce que pour lui, la poésie du verbe vient après la poésie du monde. La poésie du monde, c'est-à-dire cette relation, cette poésie qui est permanente dans le monde et qui n'existe pas uniquement dans les poèmes, mais qui existe aussi bien dans un paysage, dans le sourire d'un enfant, qui existe sur les reflets d'un lac. Cette poésie qui est permanente et qui nous permet, quand on l'aperçoit, de nous rattacher autrement à l'univers et d'avoir une intuition d'universalité, une sensation de plénitude, c'est la poésie qu'ils ont voulu mettre en avant. Et ils pensaient que cette poésie, qui nous permettait donc une intuition merveilleuse, était au-dessus de toutes les disciplines parce qu'elle nous amenait une connaissance absolue. Alors que d'après eux, les sciences, la philosophie et toutes les autres disciplines ne pouvaient nous permettre que d'approcher une certaine connaissance, alors que cette intuition poétique nous permettait d'obtenir une connaissance absolue vis-à-vis de l'univers. C'est dans ce sens-là qu'il pensait que la poésie était au-dessus de toutes les disciplines, mais que toutes les disciplines pouvaient permettre d'enrichir cette intuition. Voilà, mais c'est vraiment un texte, des propos fondateurs pour l'époque, qui résonnent encore, qui sont pour moi vraiment encore importants. Et en ce sens, Novalis a participé à une époque très importante pour l'histoire de la poésie.
Alors à l'époque, vous l'avez dit, on s'exprime beaucoup sous la forme de fragments qui sont des écrits relativement courts, mais qui n'ont rien de définitif. On n'est pas dans l'aphorisme comme le fera plus tard Nietzsche, par exemple. Comme si les gens qui pratiquent, les écrivains qui pratiquent, Novalis notamment, voulaient signifier par là que la poésie était quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et que c'est une fois qu'on aura l'ensemble, qu'on aura une connaissance du monde, de la nature, de l'amour, etc. etc. Oui, vraiment oui, comme une sûr. Semence vers quelque chose de plus grand, de plus global.
Oui, oui. Bah, justement, Novalis a appelé ces fragments « grains de pollen », dans le sens où ils étaient un point de départ, et ils correspondaient bien, ils étaient l'expression parfaite, en fait, de cette époque, parce qu'ils étaient comme une espèce d'éclair, d'éclairs qui pouvaient mélanger de façon subite des réflexions jetées très vite sur une association entre une pensée mathématique, une pensée philosophique, une pensée poétique. On pouvait tout d'un coup faire des mélanges un petit peu hybrides de manière rapide dans un fragment. Donc c'était une forme qui leur correspondait tout à fait. Et je trouve qu'elle correspond aussi au message cette forme correspond au message qu'il voulait transmettre.
Et ça va même tellement loin que les deux fondateurs de la revue avaient tendance à recommander des fragments anonymes.
Oui, à un moment donné, ils avaient prévu une communauté de fragments dans cette revue, qu'ils ne soient pas signés, parce qu'ils étaient dans un mouvement global, ils voulaient s'exprimer au nom d'un groupe.
Est-ce que... C'est difficile, hein. Est-ce qu'on pourrait quand même essayer d'expliquer en quoi est-ce que la poésie va donner la clé de l'univers ? C'est la préoccupation majeure de Novalis, finalement.
C'est un petit peu ce que j'ai dit juste auparavant.
Oui.
C'est cette intuition poétique. Vous savez, si par exemple, un autre art de la même époque peut peut-être nous, mieux nous faire saisir ce dont il s'agit. Si par exemple on prend les tableaux de Caspar David Friedrich, on a, quand on regarde ces tableaux, on a une impression de plénitude absolue, où on a l'impression que les êtres sont tout d'un coup dans un instant éternel, dans une relation parfaite avec l'univers. Voilà, ça, c'est un petit peu l'image, en fait, l'image du message poétique qu'ont voulu transmettre les membres de l'Athénaeum et Novalis. C'est-à-dire, la poésie nous permet, si on se raccroche fortement à cette intuition poétique, on peut tout d'un coup se retrouver dans des moments de plénitude absolue qui nous mettent en harmonie parfaite avec l'univers, une harmonie qui nous peut peut-être nous renseigne plus sur notre existence par rapport à la mort, par rapport à la beauté de l'univers. Donc oui, c'est elle est une clé pour toutes les connaissances.
J'aimerais bien lire quelques lignes là, le début des disciples Assaïs, qui est publié en 1798, qui est un récit en prose sur la nature et l'écriture universelle qui se cache derrière elle, si vous permettez. Les hommes marchent par des chemins divers. Qui les suit et les compare verra naître d'étranges figures. Figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout. Sur les ailes, sur la coque des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel, sur les disques de verre et de poils lorsqu'on les frotte et lorsqu'on les caresse, dans les limailles qui entourent l'aimant et dans les étranges conjonctures du hasard. On y pressent la clé de cette écriture singulière et sa grammaire, mais ce pressentiment ne veut pas se fixer dans une forme et semble se refuser à devenir la clé suprême. On dirait que quelque alcaeste est répandu sur le sens des hommes. Ce n'est que par moments que leurs peines et leurs désirs paraissent prendre corps, ainsi naissent leurs pressentiments, mais peu après tout flotte de nouveau, comme autrefois, devant leurs yeux. C'est très fort comme texte.
Vous avez bien choisi votre extrait et c'est le texte. C'est un conte initiatique où les disciples Assaïs vont essayer de trouver la langue universelle.
Est-ce qu'on peut dire que Novalis est un poète mais qui se refuse pas à écrire en prose?
Non seulement il se refuse pas, mais à cette époque, l'avenir de la poésie. Alors on a parlé de la poésie du monde, mais si la poésie doit prendre forme. Pour les romantiques de cette époque, la poésie doit prendre forme essentiellement dans le fragment et encore plus dans le roman. La prose poétique a pour eux plus d'importance à cette époque que le poème. D'ailleurs, moi, à mon avis, j'estime que la poésie peut prendre différentes formes et elle s'exprime aussi bien en prose, en poème, qu'en fragment, qu'en haïku, quand toutes les formes sont possibles. Je pense que... Alors c'est dans ce sens aussi que Novalis a voulu écrire un roman poétique dans l'absolu, c'est-à-dire un roman Bible, que malheureusement qu'il a laissé inachevé, qui est Henri d'Ofterdingen, et un roman où il voulait introduire toutes ses connaissances dans une prose poétique. C'est un livre qui est un Bildungsroman, c'est un roman de formation. Parce que ça, c'est aussi important de savoir ça par rapport à l'œuvre de Novalis. C'est qu'à cette époque, en Allemagne, il y avait un mouvement littéraire qui était le Bildungsroman, le roman de formation, qui poussait tous les écrivains à écrire chacun leur propre roman de formation. Le premier qui a écrit un roman de formation, c'est Goethe. C'est les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, que Novalis, en fait, dont Novalis connaissait quelques passages par cœur. Un roman qui a été vraiment très, très important à cette époque-là. Je dirais même beaucoup plus important que le roman auquel on associe Goethe, en général, qui est Werther, Les souffrances du jeune Werther, et qui, en fait, a lui un roman assez... qui tombe dans le romantisme noir, puisqu'il a poussé des jeunes à se suicider à l'époque. Et le roman vraiment important pour Goethe, c'est Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. D'ailleurs, un roman qu'il a mis 50 ou 60 ans à écrire, parce qu'il en a fait plusieurs versions, ce qu'il voulait délivrer vraiment son message. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Bildungsroman ? C'est un roman de formation. Et pourquoi ce mouvement a été important à cette époque ? C'est que on oppose le roman de formation au roman pur qui existait encore à l'époque uniquement. Le roman n'était à l'époque encore qu'une suite d'histoires qu'il arrivait au héros. Un roman n'était qu'une suite de péripéties. Et Goethe a voulu, à travers ce Bildungsroman, dire non, le roman doit être initiatique. Et un Bildungsroman doit délivrer un message. Et ce message sera celui de transmettre la leçon que un homme doit arriver à maturité à la fin d'un roman. Et l'écrivain doit donner les clés de cette maturité. C'est la raison pour laquelle donc, Goethe a écrit Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister et que tous les écrivains de l'époque se sont mis à écrire un roman de formation. Donc, par exemple, le grand conteur Tinck a écrit un livre qui s'appelle Sternbald. L'ami de Novalis, qui avait fondé l'Athénaeum, a écrit un roman qui s'appelle Lucinde. Et Novalis a voulu écrire Ofterdingen. Alors, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que autant il a aimé le roman de Goethe, et très vite, il en connaissait les passages par cœur, et très vite, il a dit « Non, je n'aime pas le roman de Goethe, je vais écrire un anti-Meister, un anti-Wilhelm Meister, parce que le héros de Goethe est trop bourgeois, il rentre dans le rang, alors que moi, je vais écrire un roman dans lequel le héros dépasse toutes ses limites grâce à la poésie et ne peut pas rentrer dans le rang, il ne peut pas être bourgeois comme le héros de Goethe. » Et c'est dans ce sens qu'il a écrit Henri d'Ofterdingen, l'histoire d'un jeune ménestrel qui fait l'apprentissage de la poésie à travers quelques péripéties. Alors malheureusement, c'est un roman qui est resté inachevé, mais qui reste d'une incroyable force et d'une incroyable richesse, même dans cet inachèvement.
On peut revenir un instant sur le roman Henri d'Ofterdingen. Oui. Vous dites dans votre livre que c'est un roman encyclopédique.
Parce qu'il a voulu, dans ce livre, mélanger un petit peu toutes les disciplines.
Est-ce que c'est un lien, pardon de vous couper, avec justement le fait que c'est un roman d'apprentissage ?
Oui, mais c'est aussi parce qu'il le héros fait l'apprentissage de toutes les disciplines. Voilà, il fait, par exemple, il fait une visite dans des grottes et dans des mines, donc il étudie les profondeurs de la terre. C'est un héros, un poète qui va se confronter à tous les genres. Et encyclopédique aussi, parce que Novalis, alors je ne sais pas s'il aurait pu tenir son pari, avait un projet fou, c'était de traverser toutes les époques de l'humanité dans son roman. Et ça n'était qu'une première partie. Et il voulait aborder son livre à travers toutes les époques, effectivement, de manière encyclopédique, que ça devienne une espèce d'encyclopédie poétique. C'était son projet. Il avait défini avec son ami Schlegel, il avait dit « je veux faire un livre comme une espèce de bible poétique ».
Thank you.
C'est Maurizio Pollini qui joue le troisième mouvement de la 17e sonate pour piano de Beethoven. Le nom de cette sonate, La Tempête, n'est pas de Beethoven, mais celui-ci aurait conseillé à ses auditeurs de lire La Tempête de Shakespeare.
Il y a un poète suisse, Philippe Jacotet, dans un avant-propos qu'il a écrit pour une édition des Hymnes à la nuit de Novalis, qui lui dresse un fabuleux hommage. Tout chez Novalis est harmonie, fluidité, tendre élan, mais aussi miroitement, échos, reflets et passages. Il n'y a pas là pourtant de combinaison artificielle, cela coule vraiment de source, c'est science et candeur inséparablement unies, la parole avec une douceur enfantine, mais tenace, courageuse, entraîne, charme et unit, au lieu d'arrêter et de dissocier.
Il y a un certain nombre de propos sur Novalis qui sont effectivement enchanteurs. Et alors, Novalis a mis 200 ans à se faire connaître, et c'est grâce à des grands artistes, à des grandes personnalités qu'il a pu se faire connaître au fil du temps. Il y a deux prix Nobel, même plusieurs prix Nobel de littérature qui se sont intéressés à lui. Le principal est Hermann Hesse, qui a écrit aussi des phrases, des propos vraiment enchanteurs sur Novalis. Et il avait une admiration totale sur Novalis. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le jeu des perles de verre, qui a des correspondances étroites avec les disciples Assaïs que vous avez lu tout à l'heure. Et Hermann Hesse a écrit une nouvelle qui m'a tout à fait intéressé au moment de l'écriture de mon livre, qui s'appelle Der Novalis, une nouvelle qui a été traduite en français, je crois qu'elle s'appelle Histoire de mon Novalis, publiée dans un recueil de nouvelles d'Hermann Hesse. Et j'ai trouvé ça tout à fait symbolique. En fait, Hermann Hesse a voulu expliquer dans une nouvelle la puissance de la littérature, son amour de l'objet livre, aussi bien pour l'objet en lui-même, mais pour bien sûr son contenu. Et pour décrire cet amour de la littérature, il a pris comme exemple Novalis. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Et parce qu'il aurait pu choisir un grand nombre d'auteurs, mais il a choisi Novalis, et il a choisi Novalis pour la puissance de la transmission de la littérature. C'est-à-dire que cette nouvelle raconte l'histoire d'un volume des œuvres de Novalis, comment ce volume va passer de main en main pendant 100 ou 150 ans. Alors il raconte l'histoire que ce livre de Novalis a été... au départ découvert par un jeune étudiant chez un bouquiniste qui a découvert ce livre tout à fait par hasard. Et puis il a été passionné par ce qu'il venait de lire. Il a voulu l'offrir à un ami. Cet ami n'a pas eu la même passion que lui, alors l'a mis dans un grenier. Après, ce livre a été redécouvert par une autre personne qui l'a redonné après à Hermann Hesse. Et de manière un peu métaphorique comme ça, sur ce livre qui passe de main en main, finalement, Hermann Hesse exprime voilà, ce fil rouge, comment une œuvre, petit à petit, peut se faire connaître et disparaître, parce que finalement, un livre peut rester dans un grenier pendant 50 ans. Alors, ça correspond à certaines périodes de l'époque de Novalis, parce que pendant un certain temps, il va être complètement méconnu, complètement... si on parle, par exemple, de l'époque en France, Novalis a été totalement méconnu pendant les périodes anti-germanistes dues au conflit. Tout d'un coup, on ne voulait pas du tout le lire, et puis même on le caricaturait de façon... on disait c'est un poète... voilà, simpliste, romantique et simpliste, tout ça parce que c'était, on étudiait dans une époque anti-germaniste. Et puis finalement, voilà, le livre, l'œuvre de Novalis, comme le livre qu'a voulu décrire Hermann Hesse, se fait connaître au fil du temps, mais avec des hauts, des bas, des périodes secrètes, des périodes écartées.
Il y en a un qui va faire, un poète qui va faire beaucoup pour la postérité de Novalis en France, c'est André Breton.
Oui. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Alors moi, pendant l'écriture de ce livre, c'est vrai que j'étais à l'affût de toutes les notes que je pouvais trouver sur Novalis de la part des grands personnages. Et j'ai vu un extrait d'André Breton dans une lettre au moment où il fuyait la France en 1942. Et il dit que le meilleur moyen de résister à la barbarie, c'est la lecture de certains poètes. Et il cite 3-4 poètes, dont Novalis. Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est qu'il y a un grand nombre d'intellectuels et d'écrivains qui ont été confrontés à des épreuves vraiment très très difficiles et qui tombent dans l'émerveillement pour Novalis. Par exemple, la personne qui a fait découvrir vraiment Novalis dans les années 60 et 70 en France, c'est un poète qui s'appelle Armel Gern et qui a traduit toutes les œuvres de Novalis, qui a établi les éditions des œuvres complètes de Novalis chez Gallimard. Et lui-même était un ancien résistant. Et il a aussi beaucoup raconté comment Novalis lui avait permis de se sortir de la mélancolie, et comment Novalis avait pu permettre de lui donner un sens à son existence. Et ça revient assez souvent. C'est un grand nombre d'écrivains. C'est sûr qu'on a tous une approche différente de Novalis en fonction de la période dans laquelle on vit. Et je pense que moi, par exemple, mon approche en 2010 est forcément complètement différente que quelqu'un en 1970 qui sera aussi différente qu'en 1930. Il y avait André Gide aussi découvre Novalis. Dans un journal, Novalis n'était pas connu encore en 1910, et il marque dans son journal, il faut traduire de toute urgence Novalis pour le faire connaître en France. C'est grâce à des grands personnages comme ça que Novalis a pu se faire connaître petit à petit.
Et Julien Gracq également, oui. Hein, j'ai découvert ça aussi, qui s'inspire du poète carrément lorsqu'il écrit ses carnets du Grand Chemin, pour une grande partie qui sont rédigés un peu comme des fragments géographiques. Et comme Novalis, il mélange poésie et science de la Terre. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'anecdote qui n'en est pas une, parce que c'est un fait de résistance en Allemagne, de ce mouvement de la rose blanche? Il me semble qu'il est question de Novalis aussi.
Oui, c'est un peu comme la lettre d'André Breton. Mmh. C'est qu'en fait, il y a eu un mouvement de résistance en Allemagne, et il distribuait des tracts en les lançant à partir d'avions dans le ciel. Et il lançait des tracts sur les universités pour demander aux étudiants de résister. Et dans un de ces tracts, il y avait aussi des phrases de Novalis citées parmi certaines personnalités pour résister.
Il y a une phrase de Novalis qui me trouble. Vous allez sûrement la commenter. Quand le philosophe ne fait que tout ordonner, que tout poser, le poète défait tous les liens. Je vous laisse le soin de commenter.
Ouais, c'est un petit peu... En fait, Novalis pousse son exploration assez loin, parce que même dans ses fragments qui sont assez complexes, des fois on s'aperçoit qu'il y a aussi des affirmations et puis après il est capable d'affirmer le contraire un petit peu plus loin. Il faut savoir que Novalis nous permet aussi d'entrer dans une réflexion, un mode de pensée qui est en perpétuelle remise en question. Là il va dire que la poésie nous permet de défaire tous les liens, et puis le lendemain il va dire que grâce après avoir défait tous les liens, tous les remettre ensemble. Donc c'est vraiment c'est une pensée en perpétuelle évolution et qui nous permet nous aussi de nous remettre en question.
Au fait, on l'a pas dit parce que c'était peut-être évident, mais Novalis, ça vient d'où? Il s'appelle le baron Friedrich von Hardenberg.
Oui, et c'est un pseudonyme en fait qu'il s'est donné parce que il était faisait parti d'une famille noble, il ne voulait pas choquer non plus dans cette revue Athénaeum, il ne voulait pas trop qu'on sache qu'il était rattaché à cette famille Hardenberg, donc il a choisi le pseudonyme de Novalis qui vient du latin novale et qui signifie terre à défricher. C'est aussi un très beau pseudonyme qui a beaucoup de sens, qui, je pense que aussi la sonorité de ce nom... a permis de fabriquer une espèce de mythe sur le personnage.
Frédéric Brun, si vous voulez, je vais vous demander de lire un extrait de votre ouvrage pour qu'on ait une idée de votre prose, quand même un peu, et puis qui est un magnifique portrait, selon moi, du poète.
D'accord. Novalis ne veut connaître aucune limite. Il veut se dépasser sans fin grâce à la poésie. Il est prêt à tout pour l'art. Depuis quelque temps, il est extrêmement créatif et ne veut renoncer à rien, même si la phtisie commence à s'emparer de son corps. Il ne semble jamais fatigué et se lance souvent dans des conversations animées. Ensemble, ils discutent tard dans la soirée. Lorsque leurs heures contraintes se terminent, Novalis continue à dévorer des livres jusqu'au petit matin. Dans son entourage, son humilité séduit. Ses fréquentations parlent de lui avec délicatesse et bienveillance. Joyeux et attentif, il ne laisse pas indifférent. Tous ceux qui le connaissent tombent sous le charme de sa personnalité. Il porte de l'intérêt à chaque être humain, car selon lui, la personne la plus simple peut nous apprendre quelque chose, transmettre un message personnel et sa part de vérité. Il n'est plus ce papillon un peu arrogant et insaisissable que certains trouvaient déplaisant. Tic confesse que tous ses amis sont sensibles à sa simplicité, malgré l'étendue de ses connaissances. Exempt de vanité, de prétentions savantes, étranger à toute affection et dissimulation, c'est un être humain véritable, authentique, l'incarnation la plus pure et la plus aimable d'un grand esprit immortel. Les nuits d'été sont belles. Le groupe d'amis aime sortir après minuit pour admirer la pleine lune. Ils aiment contempler son reflet sur les collines de la ville, dans une luminosité faite pour les poètes. Ils discutent jusqu'au petit jour. Tic dévoile parfois une partie d'un nouveau conte. Novalis, lui, lit les premiers chapitres des disciples à Saïs. Tic, qui est lui-même doué d'un talent remarquable, est subjugué par la lecture de ses passages. Novalis a écrit le début de ce conte dans un style poétique merveilleux, avec une fluidité unique, une simplicité qui n'appartient qu'à lui. Ses mots forment une musique céleste, une symphonie venue d'ailleurs. Il insiste sur la nécessité de développer cette histoire sans âge. Novalis évoque également son projet de roman, Henri Loftordingen, dévoile qu'il a envoyé ses hymnes à la nuit à l'Athénaeum et qu'il fait fleurir les phrases dans ses nombreux cahiers philosophiques. Le maître Tic s'incline devant l'épanouissement de ce talent. Novalis n'est plus ce jeune homme qui avait présenté quelques années plus tôt des textes sans maturité. Ses réflexions, son travail en profondeur ont trouvé leur direction.
On va terminer, si vous voulez bien, par une lecture d'un extrait des hymnes à la nuit.
Oui.
Donc, je crois que c'est le premier chant. Je ne sais pas si on a le droit d'employer le mot chant, mais il me semble que c'est ça. Quel vivant, quel être sensible n'aime avant tout les prodiges de l'espace s'élargissant autour de lui, la joie universelle de la lumière, avec ses couleurs, ses rayons et ses vagues, sa douce omniprésence dans le jour qui éveille. Âme la plus intime de la vie, elle est le souffle du monde gigantesque des astres sans repos, et il nage en dansant dans son flot bleu. Elle est le souffle de la pierre étincelante, éternellement immobile, de la plante songeuse, suçant la sève et de l'animal sauvage, ardent, aux formes variées, mais plus que de tous, de l'étranger superbe au regard pénétrant, à la démarche ailée et aux lèvres tendrement closes, riches de musique. Comme une reine de la nature terrestre, elle appelle chaque force à d'innombrables métamorphoses, noue et dénoue des alliances infinies, enveloppe de sa céleste image chaque créature terrestre. Sa présence seule révèle la prodigieuse splendeur des royaumes de ce monde. Vers le bas je me tourne, vers la sainte, l'ineffable, la mystérieuse nuit. Le monde est loin, sombré en un profond tombeau. La nuit déserte et solitaire est sa place. Dans les fibres de mon cœur souffle une profonde nostalgie. Je veux tomber en gouttes de rosée et me mêler à la cendre. Lointain du souvenir, souhait de la jeunesse, rêve de l'enfance, courte joie et vains espoirs de toute une longue vie viennent en vêtements gris, comme des brouillards du soir après le coucher du soleil. La lumière a planté ailleurs les pavillons de la joie. Ne doit-elle pas jamais revenir vers ses enfants qui l'attendent avec la foi de l'innocence ? Que jaillit-il soudain de si prémonitoire sous mon cœur et qui absorbe le souffle douceâtre de la nostalgie ? As-tu toi aussi un faible pour nous, sombre nuit ? Que portes-tu sous ton manteau qui, avec une invisible force, me va à l'âme ? Un baume précieux goutte de ta main, du bouquet de pavots. Tu soulèves dans les airs les ailes alourdies du cœur. Obscurément, ineffablement, nous nous sentons envahis par l'émoi. Je vois dans un joyeux effroi un visage grave qui, doux et recueilli, se penche vers moi et sous des boucles infiniment emmêlées montre la jeunesse chérie de la mère. Que la lumière maintenant me semble pauvre et puérile, heureux et béni l'adieu du jour. Ainsi, c'est seulement parce que la nuit détourne de toi les fidèles que tu as semé dans les vastitudes de l'espace les globes lumineux pour proclamer ta toute puissance, ton retour aux heures de ton éloignement. Plus céleste que ces étoiles clignotantes nous semblent les yeux infinis que la nuit a ouverts en nous. Ils voient plus loin que les plus pâles d'entre ces innombrables armées stellaires. Sans avoir besoin de la lumière, ils sondent les profondeurs d'un cœur aimant, ce qui remplit d'une indicible extase un espace plus haut encore. Louange à la reine de l'univers, à la haute révélatrice de mondes sacrés, à la protectrice du céleste amour, elle t'envoie vers moi, tendre bien-aimé, aimable soleil de la nuit. Maintenant je suis éveillé, car je suis tien et mien. Tu m'as révélé que la nuit est la vie, tu m'as fait homme, consume mon corps avec le feu de l'esprit, afin que, devenu aérien, je me mêle à toi de plus intime façon et qu'ainsi dure éternellement la nuit nuptiale. Merci Frédéric Brun.
Merci.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.